Laudetur Jesus Christus.
Le secrétaire d'État du Saint-Siège achève une visite de plusieurs jours au Liban. Le cardinal Parolin s'est fait l'écho des craintes de la communauté internationale devant les risques d'un élargissement de la guerre dans la région. L'ONU met en garde de son côté contre un scénario apocalyptique si la guerre devait opposer Israël au pays du Cèdre. Nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Tentative de coup d'État en Bolivie. L'ancien chef d'État-major a été arrêté après avoir voulu prendre le palais présidentiel. Retour sur ce nouvel épisode de déstabilisation dans le pays andin. À la une de ce journal également, la marche arrière du président kényan William Ruto qui retire son projet de loi de finances qui prévoyait des hausses d'impôts. Et puis à quelques jours du premier tour des élections législatives en France, gros plan ce matin dans notre dossier sur l'antisémitisme revenu au cœur des débats à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Le signe d'une société mal en point, nous dira notre invité. Il est l'auteur d'une histoire politique de l'antisémitisme en France.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le cardinal Parolin achève ce jeudi une visite de 5 jours au Liban. Le secrétaire d'État du Saint-Siège s'est rendu au pays du Cèdre pour suivre en particulier des projets de développement de l'ordre de Malte. Une visite au cours de laquelle il a pu également s'entretenir avec des responsables religieux et ceux des différentes communautés politiques du pays. Hier, le cardinal a rencontré le premier ministre sortant, Najib Mikati, à qui il a pu partager sa préoccupation devant la déstabilisation du Liban par la guerre qui est aux portes du pays. Le numéro 2 du Vatican qui s'est aussi inquiété devant la vacance du pouvoir au Liban qui n'a toujours pas de président depuis la fin octobre 2022. Les tensions croissantes à la frontière entre Liban et Israël, l'escalade verbale entre dirigeants du Hezbollah et ceux de l'État hébreu ces dernières semaines et les mises en garde internationales d'un élargissement de la guerre ne cessent, elles, d'amplifier l'inquiétude des Libanais. À Beyrouth, Paul Ralifé.
Rien dans le contexte actuel ne permet aux Libanais d'espérer le retour au calme à la frontière méridionale du pays où le Hezbollah et l'armée israélienne s'affrontent depuis le 8 octobre. Après le Koweït, le Canada et la Suisse, c'était au tour de l'Allemagne de demander mercredi à ses ressortissants de quitter le Liban de toute urgence. Sur le plan international, les déclarations n'ont rien de rassurant. Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, a estimé que la région du Moyen-Orient traverse un moment grave, appelant les belligérants à accepter les propositions de paix. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffith, a pour sa part prévenu qu'un élargissement de la guerre entre le Liban et Israël serait potentiellement apocalyptique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de son côté accusé les pays occidentaux de soutenir une offensive israélienne contre le Hezbollah. Pendant ce temps sur le terrain, l'escalade se poursuit. L'aviation israélienne a visé mercredi soir pour la première fois la grande ville de Nabatieh dans le sud du Liban, faisant 5 blessés civils. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et Israël qui a la capacité de ramener le Liban à l'âge de pierre. Ce sont les propos tenus par le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant de retour d'une visite aux États-Unis. Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire reste critique. Les États-Unis ont annoncé que seulement 1000 des 7000 tonnes d'aide devant être acheminées via Chypre ont pu être distribuées en raison des violences et des pillages, des risques de pillage. Un couloir maritime reliant l'île chypriote à Gaza avait été ouvert au mois de mars pour faciliter les livraisons de nourriture ou de matériel médical. Et puis la situation de la Terre Sainte qui a été parmi les grands sujets de la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, la ROACO, dont l'assemblée plénière s'achève ce matin au Vatican avec une audience par le pape. Nous y reviendrons en détail dans notre journal à 13h. À la une de l'actualité également, la Bolivie déstabilisée hier soir par une tentative de coup d'État. Des blindés et des militaires emmenés par le chef des armées ont occupé pendant plusieurs heures la place Murillo au cœur de la capitale, la Paz, et bordé par les principaux bâtiments du pouvoir. Le général Juan José Zuniga a même pénétré à l'intérieur du palais présidentiel avant de se retirer et d'être ensuite arrêté, Jean-Charles Puzolu.
La tentative de coup d'État a échoué, mais les Boliviens sont passés tout près d'une remise en cause de leur liberté fondamentale lorsque le général Zuniga a fait avancer des blindés jusqu'au palais présidentiel. En s'exprimant peu avant son arrestation, le chef des armées, destitué un peu plus tôt par le président Luis Arce, disait vouloir restructurer la démocratie Haïti. Des mouvements de troupes suspects avaient été signalés dans la journée sur le réseau social X par l'ancien président Evo Morales, notamment, qui appelait la population à se mobiliser. En direct à la télévision et entouré des membres de son gouvernement de gauche, le président Luis Arce a lui aussi rapidement appelé la population à se mobiliser également et désigné un successeur au général Zuniga avant d'envoyer son ministre de l'Intérieur et la police pour une interpellation presque scénarisée et diffusée par la télévision publique. Le haut gradé a été conduit au siège d'une unité spéciale de la police pour être interrogé par le parquet. Il est accusé de terrorisme et de soulèvement armé. Reste à savoir qui dit vrai. Le général a eu le temps de dire à la presse avant d'être embarqué qu'il avait agi sur ordre du président pour rehausser la cote de popularité de ce dernier à un an de la prochaine élection présidentielle.
Jean-Charles Puzolu. La ville d'Atlanta en Géorgie sera ce soir regardée par des millions d'Américains. Le premier débat de campagne opposant Joe Biden et Donald Trump doit en effet s'y dérouler, organisé par la chaîne CNN. Une heure et demie de confrontation entre le président démocrate, 81 ans, et son prédécesseur républicain qui ne promet guère d'être apaisé. Tant deux visions de la société s'opposent. Un troisième candidat est en lice pour la Maison-Blanche, Robert Kennedy Jr., neveu de l'ancien président assassiné, mais qui reste largement marginalisé. Ce débat américain abordera-t-il la guerre en Ukraine et le rôle de l'OTAN face à la Russie ? Le conflit, on le sait, est revenu au cœur des préoccupations de l'Alliance Atlantique, qui a désormais un nouveau secrétaire général, le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Il succède au Norvégien Jens Stoltenberg, une nomination saluée en particulier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Marc Rutte, qui de la ville générale a les qualités requises pour faire face à ce qui devrait être les deux grands défis de son mandat, la Russie et la relation de l'OTAN avec Washington. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Russie est redevenue le cœur de métier de l'OTAN, recentrée désormais sur son rôle durant la guerre froide. Et sous la direction de Mark Rutte, les Pays-Bas se sont signalés comme un des plus nets soutiens militaires de l'Ukraine. Il a même été un des premiers à lancer la coalition pour fournir des chasseurs F-16 à Kiev. Mais pour les Pays-Bas, l'Ukraine est au centre des préoccupations depuis 10 ans, depuis qu'une batterie antimissile russe a abattu le vol MH17 parti d'Amsterdam, faisant 298 morts. Et c'est en connaissance de cause que les alliés ont donc choisi Mark Rutte. Il a aussi fortement poussé en faveur de Kiev au sein de l'Union européenne. Il a réussi à neutraliser aussi le Hongrois Viktor Orban, le plus favorable au Kremlin au sein de l'OTAN et qui a obtenu que la Hongrie ne soit pas obligée de fournir des armes à l'Ukraine. Mark Rutte sera adoubé par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Washington du 9 au 11 juillet, alors que beaucoup d'alliés s'inquiètent de l'éventualité d'une deuxième présidence de Donald Trump, très peu favorable à l'OTAN. Un Donald Trump que Mark Rutte a par le passé réussi à amadouer sur les relations commerciales transatlantiques et sur les dépenses militaires des Européens. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Au Kenya, c'est un retournement de veste inattendu. Le président William Ruto a annoncé hier qu'il n'allait pas promulguer le projet de loi de finances publiques, projet très contesté par la population pour les hausses de taxes qu'il prévoyait et qui avait donné lieu ces derniers jours à une mobilisation inédite. La contestation avait culminé avec cette manifestation mardi qui a viré à l'émeute dans la capitale et a fait au moins 23 morts. C'est donc face à la colère populaire que le président a fini par céder à Nairobi, Alban Tiroir.
Les réactions à cette annonce sont apparues très rapidement sur les réseaux sociaux. Certains l'ont applaudi comme une victoire des manifestants. Le président William Ruto lui-même l'a reconnu. Il a dit avoir pris en compte le fort mécontentement des Kenyans. « Je dirige un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple et le peuple a parlé », a-t-il expliqué. Il a aussi promis d'engager une concertation nationale avec la jeunesse. D'autres se montrent plus méfiants car la loi a désormais été renvoyée au Parlement qui doit encore acter son retrait. Le chef de l'État a officiellement demandé son annulation dans sa totalité, mais certains redoutent un coup de communication. William Ruto a lui affirmé que le retrait de la loi était une décision collective prise avec les membres de sa coalition majoritaire au Parlement. Enfin, cette volte-face présidentielle ne semble pas avoir totalement apaisé la contestation. La colère va au-delà de la loi de finances publiques, affirme l'opposant politique Kalonzo Musyoka sur X, un avis partagé par beaucoup sur les réseaux sociaux, où les appels à la démission du président se multiplient. Le militant Boniface Mwangi a lui appelé à maintenir la manifestation qui était prévue ce jeudi pour honorer les victimes et, selon ses mots, demander un meilleur Kenya. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
Et on se retrouve dans quelques secondes juste après cet appel à la générosité.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo.di.sanpietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Dimanche prochain, les Français se rendront donc aux urnes pour le premier tour des législatives anticipées convoquées par Emmanuel Macron au soir des élections européennes. Selon les derniers sondages, l'extrême droite est donnée largement en tête, suivie de la coalition de gauche et d'extrême gauche. Le centre, qui soutient le président de la République, est présenté, lui, comme le grand perdant de ce scrutin qui pourrait, au lendemain du second tour, le 7 juillet, déboucher sur un gouvernement d'extrême droite, une première en France depuis 1940. Parmi les thèmes abordés pendant cette campagne électorale éclair, figure en bonne place l'antisémitisme. Les deux extrémités de l'échiquier politique s'accusent mutuellement d'être antisémites, sans compter les accusations du centre envers ses deux adversaires. Comment expliquer que cette question ancienne occupe autant de place dans les débats aujourd'hui et fasse même preuve d'argument électoral? La réponse est complexe. Nous avons posé la question à Alexandre Bande, historien. Il est le co-auteur d'une histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours, récemment publié chez Robert Laffont.
Il y a d'abord les événements qui sont successifs au 7 octobre. D'abord le 7 octobre lui-même et puis les prises de position politiques. Nous sommes potentiellement surpris de voir et l'importance que prend cette question de l'antisémitisme dans la campagne actuelle, car les enjeux sont bien multiples, bien différents. Les enjeux sur les programmes économiques, les enjeux sur les programmes de société, les enjeux sur les orientations internationales, voyez. Mais je pense que dans une société comme la nôtre, où la minorité juive représente à peine 1% de la population total, quand on en vient à donner autant d'importance à cette question cruciale de l'antisémitisme, et c'est pas une question erronée, c'est pas une question superflue, c'est que la société va mal. Ça, c'est un des constats qu'on peut faire et qui est un révélateur sur le temps long.
C'est en grande partie l'actualité au Proche-Orient qui suscite, on va dire, la résurgence, en tout cas la mise au premier plan de cette question d'antisémitisme, ou bien est-ce qu'il y a des motifs quand même qui sont un peu plus profonds?
Il y a d'un côté des motifs profonds qui font que dans notre société, il y a encore certains de nos contemporains qui continuent à avoir sur la communauté juive un regard négatif, dans certains cas, hostile, dans certains autres cas, voire simplement suspicieux ou méfiant, en raison d'un certain nombre de poncifs qui circulent et qui sont encore alimentés sur les réseaux sociaux, le pouvoir de l'argent, le pouvoir dans les médias, une sorte de pouvoir occulte. Et là, on en revient sur le fait qu'il y a un temps long dans cette question, celle du complot, celle de la menace, celle de ce pouvoir qui serait plus ou moins occulte et qui serait en corrélation avec Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième aspect qui ressurgit, c'est cette capacité qu'ont bon nombre de nos contemporains de faire une sorte d'essentialisation, c'est-à-dire qu'au regard de ce qui se passe dans la région de l'Orient méditerranéen, certains de nos contemporains font une association excessivement rapide entre la dénonciation de ce qui se passe dans la région et la dénonciation, la méfiance ou l'animosité à l'égard des Juifs.
Est-ce que cette question de l'antisémitisme est, selon vous, d'abord et avant tout, dans le contexte de la campagne actuelle, un argument électoral?
On se rend bien compte que l'antisémitisme est devenu, oui, dans la campagne actuelle, a pris une proportion, une place considérable, qui n'est pas sans gêner d'ailleurs certains membres de la communauté juive de France, hein, qui comprennent pas pourquoi cette question est à ce point centrale. D'autres sont terrifiés par ce qui est en train de se produire, d'autres sont terrifiés par ce qui pourrait se produire au regard de tel ou tel résultat électoraux. On se rend compte qu'il y a certainement une forme d'instrumentalisation de cette question. Et en même temps, je pense que l'argument de l'instrumentalisation, quand il est utilisé par certains comme étant un argument, enfin une fin de non-recevoir, est particulièrement dangereux. Et de l'autre côté, pour ne reprendre que l'argument de ceux qui se prétendent les chevaliers blancs, la cause juive en France ou en Occident, si on est un petit peu honnête intellectuellement, les gouvernements ultranationalistes ou les gouvernements xénophobes ou les gouvernements qui prétendent affirmer la priorité nationale, dans l'histoire, ont toujours eu tendance à, après s'être intéressés aux étrangers de l'extérieur, à s'intéresser aux mauvais nationaux, et que dans la vulgate ou dans le discours très ancien des extrêmes droites, les mauvais Français sont souvent les Juifs, quoi. Vous voyez, donc je pense qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'instrumentalisation de part et d'autre. Le vote juif en France, c'est un vote qui pèse assez peu lourd, hein, en proportion du poids numérique des Juifs de France, mais les évolutions d'une partie de la communauté juive dans le rapport au vote sont quand même intéressantes. Bon nombre de nos concitoyens juifs vont voter pour ceux qui se prétendent être en position de les défendre aujourd'hui, c'est-à-dire en gros Reconquête d'un côté et surtout le RN de l'autre côté, quoi.
Interrogé par Xavier Sartre, l'historien Alexandre Bande, spécialiste de l'antisémitisme en France, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Un entretien que vous pourrez retrouver plus en détail sur notre site vaticannews.va. L'information, elle, reviendra à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.